RCF.
Catholique et société, avec Yann Lecoz, le regard d'un catholique aujourd'hui face aux multiples défis de son temps.
Bonjour Yann, bonjour Michel. Nous nous retrouvons pour prolonger notre discussion autour de cet enseignement, de cette doctrine. Et je pense qu'il faudrait se poser la question des racines, et puis vous avez déjà évoqué sa durabilité ou sa permanence, mais là aussi, plusieurs questions se posent. Michel, n'avez-vous aucune interrogation sur cet aspect ? Est-ce une certitude absolue pour vous, une tranquillité d'esprit ?
À partir du moment où je connais l'encyclique de Léon XIII, Rerum Novarum, je sais que je suis à l'origine de la doctrine de l'Église, n'est-ce pas, Yann ?
Oui, d'une certaine manière. Mais simplement...
Je ne connais pas mes basiques ?
Si, parce que effectivement, Rerum Novarum, de la fin du XIXe siècle, est bien une étape fondamentale de la doctrine de l'Église en matière sociale et politique. Mais la doctrine sociale de l'Église et sa doctrine politique est bien antérieure à Rerum Novarum. Ça remonte à, oh, je dirais pas la nuit des temps, mais à, si, Adam et Ève. Oui, c'est pas de la provocation de ma part.
Et donc, on retrouve des traces de l'enseignement de l'Église, donc bien avant le XIXe siècle. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il y a des éléments qui nous montrent qu'il y a déjà, à l'origine, un message qui ne change pas.
Ben, oui, puisque déjà dans l'Ancien Testament, le bon Dieu nous a donné quand même un guide, qui sont les 10 commandements. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais les 3 premiers, effectivement, sont des commandements qui concernent le bon Dieu, les devoirs vis-à-vis de Dieu, mais les 7 autres sont le guide de vie en société, de façon que la société soit la moins infernale possible. Ça veut dire que à l'époque, ça ne devait pas être plus joyeux qu'à notre époque, puisque le bon Dieu a cru bon et nécessaire de mettre noir sur blanc un certain nombre de points de repère pour guider nos mœurs, nos manières de vivre.
Donc une origine très ancienne et une permanence dans l'enseignement donné. Il n'y a-t-il pas d'autres courants politiques ou d'autres religions qui peuvent se réclamer de cette même permanence ?
Si, je pense. Je pense que toutes les religions ont un fondement qui s'appuie sur une durée. On prend l'islam, on prend le bouddhisme. Bon, je ne suis pas connaisseur du tout. Hein. Il est évident qu'il y a une permanence. Simplement, je rappelle quand même que l'Église a ses 2000 ans d'existence en tant qu'institution humaine et divine, et que l'Église a son passé derrière. Justement, on parle de l'Ancien Testament, puisque il n'y a pas de rupture entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Lorsque, par exemple, l'Église nous affirme « croissez et multipliez », on le retrouve au principe de la Genèse. On y a dedans les fondements de la vie familiale. Quand l'Église nous dit « cultivez la terre », on y a les fondements du travail. Et donc toute la doctrine de l'Église va s'enrichir autour de ces principes, autour de ses enseignements, autour de ses directives, va s'enrichir avec l'expérience humaine. Et chaque fois qu'il y a des difficultés, l'Église intervient pour soit conseiller, soit orienter, réorienter, voire condamner.
Alors, si on prend un exemple qui va parler un petit peu à tous nos auditeurs concernant la rémunération dans le cadre du travail,
oui.
La notion de juste salaire, comment est-ce qu'on peut dire que l'enseignement de l'Église prévoyait dans l'Ancien Testament, par exemple, ou au début au début du christianisme, à quel moment est-ce que la notion de juste salaire est-elle évoquée ?
Il y a déjà dans le Lévitique, donc dans l'Ancien Testament, il y a cette phrase claire que le salaire de ton employé ne reste pas un jour dans ta maison. En d'autres termes, le devoir de reconnaître le service rendu et de payer la personne qui a rendu service. Et au fil des siècles, l'Église va perfectionner ce message au gré des circonstances. Et par exemple, on a vu une grande étape avec, notamment au XIXe siècle, après la Révolution française, toute la suppression des protections qui avaient été mises en place au cours des siècles, les corporations, etc., la Révolution française ayant supprimé tout ça, l'Église a éprouvé le besoin d'intervenir en disant « Attention, vous êtes en train de créer des miséreux ». Et elle nous a rappelé, et c'est Rerum Novarum. Et récemment, on a eu Jean-Paul II qui, dans Laborem Exercens, nous a condamné, mais sans aucune équivoque possible, ce que j'appelais le financiérisme, c'est-à-dire l'argent pour l'argent.
Ok Yann, mais en quoi le salaire doit-il être juste, si on reprend par rapport à la permanence de l'enseignement de l'Église? Qu'est-ce que c'est que la notion de juste salaire? Parce que je comprends que tu me dis que je dois être rémunéré pour mon travail. Alors on va essayer d'être court, hein. Mais quelle est la notion de juste dans cette expression juste salaire?
À partir du moment où le travail, c'est un des attributs essentiels de l'être humain par lequel l'être humain va non seulement gagner sa vie, celle de ses proches, il est évident que le travail est l'activité essentielle de l'être humain. Le travail est donc une expression de la personne, et la dignité de la personne humaine fait qu'on doit reconnaître les services qu'elle rend.
Je pense que vous avez beaucoup travaillé et bien travaillé. Je vous propose de nous retrouver après une courte pause et nous reprendrons pour cette notion. Je reviendrai peut-être sur la question du juste, parce que le mot provoque et en même temps est très chargé de tout un poids, un petit peu même parfois émotionnel. Alors, un petit moment de repos et nous nous retrouvons dans un instant. Nous nous retrouvons et je me tourne, Yann, vers toi parce que nous étions sur cette question de juste salaire et de justice en général. Et nous avons bien compris que si les racines étaient très profondes dans l'Ancien Testament, qu'elles avaient été développées au travers des encycliques, nous as-tu dit, c'est-à-dire de l'enseignement structuré par des lettres, par des documents des souverains pontifes. Pourrais-tu nous repréciser ce que tu entends derrière tout cela?
Justice, savoir rendre à chacun ce qui lui est dû. Reconnaître à chacun les mérites qu'il peut avoir, les talents qu'il peut avoir. Et il est évident que le salaire, entre autres, c'est un des moyens, ce n'est pas le seul, et le moyen essentiel qui permet de gagner sa vie, de reconnaître l'individu. C'est pour ça que il ne faut pas confondre justice et égalité. Si on traite de manière égale deux personnes qui ont le même poste, qui font la même fabrication, le même produit, je prends l'exemple d'ouvrier, mais qu'il y en a un qui le fait avec la bonne humeur, le sourire, l'entraide, il apporte son savoir, il prend des initiatives, il est à l'heure à son boulot, et l'autre fait des bras d'honneur, excusez-moi, n'en a rien à faire, se garde son savoir pour lui, n'a aucun souci de la qualité, peut-être si on les paye à la fin du mois le même prix, c'est peut-être égal. Mais il est évident que ça s'appelle une injustice.
Yann, est-ce que tu aurais un exemple dans le temps, dans l'ancien temps, au niveau de l'Ancien Testament ou au début du christianisme, sur cette notion de justice parce que moi je comprends ce que tu dis, c'est-à-dire que j'apporte pas les mêmes choses dans le cadre de mon travail. Mais est-ce que cette permanence, on la retrouve dans le temps?
Oui, je pense, quand on regarde effectivement dans les corporations, et notamment je pense à la façon dont étaient traitées les questions du travail dans cette période qui va du 10e au 17e siècle, avec tous les inconvénients que cela pouvait avoir et avec tous les excès et les abus. Mais la reconnaissance du travail et des services rendus, notamment le retrouver à travers les diplômes, à travers les titres, l'apprenti, le maître, le compagnon, le maître.
Ok, donc ce n'est pas nouveau.
Non, c'est pas
alors,
nouveau du tout.
On prend un autre exemple dans cette permanence concernant les mœurs.
Oui.
Qu'est-ce que tu as envie de nous partager quand j'évoque justement cette permanence dans l'enseignement de l'Église sur les mœurs?
Les mœurs, j'allais dire, ils sont parfaitement réglés par le décalogue. Tu ne voleras pas, et quand on prend le décalogue, c'est les 10 commandements, et quand on prend le détail des 10 commandements dans l'Ancien Testament, c'est très précis, tu ne voleras pas l'âne de ton voisin, tu ne convoiteras pas sa femme, tout ça est dans ses biens propres, etc., tout est mélangé, et puis on y retrouve effectivement les conseils sur la pureté. L'Église n'est pas parfaite, moyennant quoi elle a toujours mis le doigt sur les conséquences de ces désordres au point de vue mœurs, d'où les 10 commandements. Il est évident que quand on voit aujourd'hui, comme ça s'est passé hier, parce que l'être humain est être humain avec toutes ses faiblesses, il y a eu des périodes dans l'Église qui n'ont pas été des exemples, je pense notamment toute l'époque des Borgia, où on avait des papes qui n'étaient pas forcément exemplaires du point de vue mœurs, mais, comme disait l'autre, les mœurs étaient déplorables, mais le bullaire, c'est-à-dire tout l'enseignement, toutes les doctrines, son bullaire était parfait. Il parlait d'Alexandre VI Borgia, c'est extraordinaire comme phrase. Les mœurs étaient déplorables, mais la doctrine était parfaite.
Donc, permanence de l'enseignement, c'est-à-dire que les désordres que nous connaissons aujourd'hui, on retrouve les raisons, ou tout au moins les réponses, dans l'enseignement de l'Église, qui bien souvent est un enseignement qui se base sur la loi naturelle. C'est-à-dire que moi, non catholique, est-ce que je peux partager cet enseignement?
Tout à fait, tout à fait. On retrouve ça sous les Romains, on retrouve ça... Je reprends un exemple qui me frappe aujourd'hui, parce qu'il est d'actualité, c'est quand l'Église, par exemple, enseigne le respect de la vie. Le respect de la vie, où on retrouve le psaume 139 de David, où on retrouve effectivement un certain nombre de principes qui, aujourd'hui, rejoignent les découvertes de la science. Donc,
je suis désolé, Yann, je suis obligé de couper.
Je crois qu'effectivement, nous avons bien compris, permanence, respect des grands principes, une certaine adaptabilité, dans la mesure où, de toute façon, l'humain est ce qu'il est, avec ses qualités, ses défauts, ses faiblesses. Mais justement, le guide est là pour nous remettre de temps en temps, et là, chaque fois qu'il le faut, sur le bon chemin. C'est aussi comme cela que l'Église nous guide et nous oriente. Merci.